les interviewer. Et aussi des crottes de nez. Des thèmes variés.
De l'absurdité.
De l'absurdité.
De l'absurdité.
Des portraits. Un soupçon d'actualité.
Une louche de solidarité.
Des reportages bien montés.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Canu, et oui c'est Lilith, Martine et les autres. Aujourd'hui ce sera une valse radiophonique en trois temps, pour ce vendredi 10 juin 2016. D'abord, le Centre d'études postcoloniales va nous faire découvrir la pensée de Tawana Olivia Gomez Silva, à partir de ses recherches actuelles sur la participation politique des femmes noires dans les mouvements de gauche pendant la dictature militaire au Brésil, 1964-1984. Elle qui travaille avec les thématiques suivantes, histoire, afroféminisme, relations de genre, relations raciales, histoire des femmes noires, a beaucoup à nous apporter sur nos luttes en France, sur la place des Noirs, sur le point de vue fantasmé qu'on apporte sur le Brésil. Est-ce que c'est vraiment un pays multiculturel sans racisme ? Elle est doctorante en histoire à l'université Rennes 2 en France, en co-tutelle avec l'Universidad Federal de Santa Catarina au Brésil. On remercie chaleureusement le Centre d'études postcoloniales pour cette interview très enrichissante. Vous allez voir, ce sera tout à l'heure. Et toujours au cœur des luttes avec le mouvement social contre la réforme, contre la loi de réforme du Code du travail. Et oui, la lutte s'intensifie avec l'entrée dans la danse des éboueurs à Saint-Étienne, Paris et peut-être ailleurs, avec en toile de fond toujours celle des cheminots. Nous sommes allés à la manif du 9 juin hier, quoi, appelés par des syndicats retraités avec nos micros. Interview prise sur le vif d'une employée de la SNCF en grève. Elle raconte que de belles choses, celle qui donne le baume au cœur pour tenir la grève, continue à lutter contre cette loi travail. En deux mots, cette réforme arrivant 6 mois après la loi Macron, vous savez, les bus Macron, l'ubérisation, tout ça, et ben cette nouvelle loi casse le code du travail en faisant passer les accords d'entreprise avant les accords de branche. Elle modifie aussi les accords sur les licenciements économiques, par exemple, retire les minimums de dommages et intérêts en cas de licenciement injustifié. Une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques. La durée de congé en cas de maladie ou de handicap d'un ou d'une proche n'est plus garantie par la loi. D'une part, ça réduit les droits des salariés et d'autre part, ça nous conduit, nous les salariés, à toujours plus de flexibilité. Et pour en savoir plus, il y a le site qui est super bien, ça s'appelle Loi Travail LOL, pour en savoir toujours plus et rejoindre la grève dans vos entreprises, dans vos boîtes, hôpitaux, etc. Et bien sûr, il y aura de la musique, des actualités, un agenda, du thé et des gâteaux au chocolat, car Lilith, Martine et les autres, c'est l'heure du thé sur Radio Canu 102.2 FM jusqu'à 18h, tous les 15 jours, en alternance avec On n'est pas des cadeaux.
Enfant de la capitale, du macadam occidental, du pays des droits de l'homme, de la liberté de parole. Foutaise ici, l'hypocrisie règne en maître. Dans les yeux de Marianne, elle se reflète. T'offre donner la Marseillaise pour me sentir française. Applaudir l'EB et la politique israélienne. Ils veulent nous façonner à leur image, écraser notre héritage, nous rendre tous, tous sages. Chez moi, pas de saga Africa, inspiré par Sankara. J'kick sur de la Kora et j'te nique en Bambara. Enfant de la diaspora, j'te mets au parfum. Ici, on fait de la pute pour les putes comme Gerlin. Bon sang, il serait temps que j'brise mon écran avec un peu de cran. Que je me barre de leur carcan, c'est pas l'Eldorado, monte pas sur le cargo. Tu partages un grain de marron, car il pille ton magot. Il continue de spoiler comme Alex colonisé. Pieds et mains liés, il continue de nier. Nos parents se sont battus, tête dressée. La langue pendue, on prendra pas la fessée. Ta torture sur le palier. Et il voudrait nous donner des leçons comme un écolier. Notre histoire gommée, des manuels scolaires. Pas de gorée ni de commerce triangulaire. Mais je t'apporte rien, petit, ça dure depuis un bout de temps. Toi et moi on est vus comme des orang-outans. Des primates à qui on donne la banane. Un sud de 3 mailles pour centre social. Garde tes thunes, ton luxe, ton mon empathie. Y'a bien longtemps qu'on croit plus en vos putain de partie. Peu d'estime à droite comme à gauche. Voici comment remercie ceux qu'on viré les bauches. Censure sous pointe, suture, coup de crosse sous la ceinture. Le boss c'est l'agent, ferme la pourriture. Ressens ma rage à chaque césure, sœur. Ressens ma rage à chaque bavure, frère. Malgré les coups durs, restons soudés. Cessons de bouder, c'est une offense à nos aînés. Je pense à eux, à chaque injustice. Paix à leur âme de tcharoï ascétif.
Et alors pour introduire l'interview de Tawana, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la polémique autour du camp d'été décolonial. Mais d'abord, c'est quoi ce camp d'été décolonial ? C'est un espace qui a été créé pour se former, comme elles l'écrivent sur le site, à l'antiracisme politique. Et toujours comme elles le disent, à l'approche de la campagne présidentielle, il semblait important pour nous, les concernés par le racisme d'État, que nous soyons préparés à être les sujets principaux des discours politiques. Et je continue, le camp d'été s'inscrit dans la tradition des luttes d'émancipation décoloniale, anticapitaliste et d'éducation populaire. C'est dans cette visée que ce camp décolonial s'est monté avec l'envie de n'accueillir que les personnes subissant à titre personnel le racisme d'État en contexte français, même si elles acceptent quelques inscriptions avec des personnes subissant le racisme d'État mais vivant dans d'autres pays. C'est donc un espace où les personnes blanches, qui de fait ne subissent pas le racisme ni en France ni ailleurs, ne sont pas invitées. Comme moi, quand je me balade dans la rue, quand je ne subis pas le racisme, eh ben, je ne suis pas concernée, j'y vais pas. Et oui, c'est un des principes de la non-mixité choisie comme outil de lutte d'émancipation et contre les oppressions. Tout comme notre émission qui ne vise à donner la parole qu'à celles qui vivent le sexisme au quotidien, des trans, des gouines, des femmes, dans des espaces radiophoniques saturés de points de vue masculins, sexistes, misogynes. Mais malheureusement, le contexte aujourd'hui en France n'est pas le même entre les espaces non mix féministes et antiracistes. Ce camp d'été décolonial a vite fait le tollé sur la toile, les médias, comme le Figaro, à l'Assemblée nationale. Je cite le député Les Républicains Bernard Debré qui a dénoncé une montée du racisme anti-blanc et de l'antisémitisme à partir de, en citant ce camp d'été décolonial et en citant le principe qu'il n'y ait que des personnes qui soient concernées par le racisme. Et à cela, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de Hollande et Valls, répond « Ces initiatives sont inacceptables, confortent une vision racisée et raciste de la société. Au bout de ce chemin-là, il n'y a que le repli sur soi, la division communautaire et le chacun chez soi. La seule réponse à apporter au racisme et à l'antisémitisme, c'est les valeurs de la République, a conclu la ministre. Je vous laisse aller sur le site pour voir qu'il n'y a ni propos racistes ni propos antisémites, c'est tout l'inverse. Mais vous tous qui dénoncez cette injustice, ce ségrégationnisme choisi, ces enfermements des opinions, ce racisme contre les pauvres blancs, êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Dans ce contexte sociétal, cette interview que nous allons écouter, faite par le Centre d'études postcoloniales lyonnais, arrive pile à l'heure pour nous remettre en place et faire taire les fantasmes. On va entendre donc Tawana Olivia Gomez-Silva, doctorante en histoire, travaillant sur la participation politique des femmes noires dans les mouvements de gauche pendant la dictature militaire au Brésil en 1964-1984. On va pas entendre qu'elle va expliquer ce sujet, mais elle va parler autour et de tout ce que ça a l'a fait poser comme question en lien avec le Centre d'études postcoloniales. Elle a été l'invitée au début du mois de mai 2016 à une conférence organisée par le Centre d'études postcoloniales sur comment sortir aujourd'hui de l'aliénation, colorisme et honte du cheveu crépus. Ce groupe, le poste d'études postcoloniales, a débuté il y a un an et demi. C'est donc un groupe assez nouveau, mais qui organise vraiment beaucoup de conférences et qui est très dynamique en ce moment, et qui a déjà écrit son premier feuillet qui s'intitule « Que veut dire la race aujourd'hui ?» Ainsi se présente-t-il. Cela vise, le Centre d'études postcoloniales, à développer un cercle militant de réflexion et d'action autour des questions liées au postcolonialisme. Le concept de postcolonial est aujourd'hui utilisé de manière toujours plus fréquente, à tel point que ce concept s'est cristallisé et institutionnalisé à travers les postcolonial studies anglo-saxonnes qui ont succès important, notamment dans les domaines de littérature. Comme si le postcolonialisme était purement d'ordre discursif, c'est-à-dire juste de l'ordre de la discussion et de l'écriture, et restait si je l'explique bien, et rester seulement dans la culture et les représentations. Nous reprenons cependant volontairement le concept de postcolonial en partant du principe que celui-ci renvoie à une réalité qu'il est primordial de questionner. Nous entendons le Centre d'études postcoloniales, pas Lilith, Martine et les autres. Nous entendons donc nous interroger sur les diverses questions que soulève la situation postcoloniale, les questions liées à la race, à l'immigration en Europe, la France-Afrique, le sionisme, la campagne BDS, etc. Nous voulons également promouvoir la connaissance d'auteurs. Décoloniser les esprits, c'est décoloniser le regard négatif que nous portons sur les autres. C'est déconstruire le système de domination d'humain par d'humain. Ok, la base est donnée. Écoutons donc Tawana.
Je suis en France depuis janvier 2006. J'arrive en tant que jeune fille au pair. Et là, depuis, j'ai fait mes études en histoire. J'ai fait une licence en histoire au Brésil. Après, j'ai fait une autre licence en France, à l'université Rennes 2. Ensuite, j'ai fait un master en histoire et relations internationales, aussi à Rennes 2, où j'ai travaillé avec surtout un Brésilien, Apolônio de Carvalho, sur sa trajectoire à l'intérieur de France Tireurs Partisans, Mandauvre Immigré. Et là, actuellement, j'ai fait une thèse sur la participation politique des femmes noires dans les mouvements de gauche pendant la dictature militaire au Brésil de 64-84.
D'accord. Donc la thématique de ta thèse, c'est...
Ce sont surtout les femmes noires, donc les études de genre, les études des races et aussi la dictature, donc des études liées à la mémoire, au gouvernement autoritaire, aux formes de résistance. Il s'agit surtout de travailler la trajectoire des femmes noires à l'intérieur du mouvement féministe, du mouvement noir et du mouvement de gauche, qui à ce moment, pendant la dictature, étaient tous les trois en train de s'organiser pour lutter contre ce gouvernement autoritaire.
Et c'est quoi qui t'a poussé ou qui t'a donné envie de travailler sur cette thématique?
Parce que, bon, quand j'ai fait ma licence au Brésil, surtout à ce moment, on a beaucoup travaillé avec tout ce qui est dictature militaire, surtout celle des années 64, qui fait partie de l'histoire du temps présent. Et j'ai observé à ce moment-là qu'il y avait beaucoup d'études tournées vers les militants dans les mouvements de gauche, de manière très générale. Il avait des études sur les femmes dans les mouvements de gauche et dans les mouvements féministes, mais sans sans étudier forcément la catégorie raciale. Et pareil, j'ai trouvé des études sur les mouvements noirs qui luttaient contre la dictature, qui articulaient race et classe, mais qui n'articulaient pas forcément les trajectoires des femmes ou les études féministes. Donc j'ai vu que dans ces trois groupes, les femmes noires n'étaient vraiment pas incluses, les femmes noires dans la logique d'étudier donc ces trois catégories des gens, des races, des classes, et de les articuler. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il n'y a pas... bien sûr qu'il y en a des travaux, mais ils sont quand même plus ou moins restreints. Et aussi parce que j'ai vécu une expérience un peu étrange. Quand j'ai commencé ma thèse, j'ai demandé à un professeur français, un homme blanc, j'ai parlé qu'est-ce que je voulais faire en thèse. Il m'a répondu comme ça. Il a dit non, mais les femmes noires étaient dans les favelas, elles ne faisaient rien du tout. Elles ne faisaient pas de la politique. Je me suis dit. Après, je suis rentrée au Brésil, j'ai demandé à une femme blanche à propos de mon sujet ce qu'elle pensait. Elle a dit oui, mais les femmes noires, il faut étudier surtout la famille, l'intime, la maison. Elles n'étaient pas dans la politique. Et après, j'ai demandé à un homme noir, un professeur d'université, un homme noir, qu'est-ce qu'il en pensait? Il m'a dit, oui, mais les femmes noires, il faut étudier surtout les côtés culturels, religieux. Elles ne sont pas forcément dans la résistance politique, dans la guérilla, dans la lutte armée. J'ai dit, non, mais attendez, elles sont dans les luttes armées. Elles sont pas forcément fermées à l'intérieur de la maison, surtout que les femmes noires au Brésil, beaucoup sont seules. Elles ont des enfants, mais elles sont seules. Elles n'ont pas forcément des maris, il y a beaucoup d'abandon chez ces populations-là. Donc elles sont très seules, beaucoup, elles sont maîtres quand même de leur quotidien, vous voyez. Donc bien sûr qu'elles s'intéressaient, bien sûr qu'elles faisaient de la politique, bien sûr qu'elles participaient de tous les contextes sociaux de l'époque, politique. Mais dans l'imaginaire des gens, dans l'imaginaire collectif encore, et là en voyant des femmes blanches, des hommes noirs, les femmes noires, leur place à la maison, en train de s'occuper des enfants, Les plus loin qu'elles y vont, c'est dans la couture, dans la religion, mais jamais dans, dans la participation politique en tant que résistante, en tant que guerrière, en tant que vraiment dans la lutte armée ou même dans les postes importants du Parti communiste, ou du mouvement féministe, ou des autres mouvements de gauche, ou du mouvement noir. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressée vraiment, ça m'a trop interpellée ce questionnement.
Et ton travail en fait il se base principalement sur quoi? T'as fait des enquêtes de terrain, t'as fait des interviews ou plutôt par rapport à des archives?
Surtout des interviews, parce que justement les écrits des femmes noires ce n'était pas vraiment valorisé par aucun de ces groupes-là. Il y a eu une femme, Teresa Santos, qui elle est née dans les années 30, donc dans les années 50 elle était déjà adulte, elle était déjà commencé sa vie d'adulte. Elle était extrêmement connue, elle était vraiment importante dans les partis communistes, elle était dans les guérillas, elle était à côté d'Agostinho Neto en Angola, elle a fait partie du ministère de la Couture, invitée par Agostinho Neto, elle était en Guyane lusophone pendant les mouvements d'indépendance. Et on va chercher des archives sur Thérèse, on ne trouve pas.
Comment t'as trouvé en fait les personnes pour les interviewer? Comment t'as procédé?
J'ai pris plus longtemps cherchant des gens qu'en faisant la thèse.
Et oui, c'est ça. Ah,
c'était très très difficile. Mais j'ai trouvé, d'abord c'était Thérèse, la première personne qui m'est apparue due à sa trajectoire politique. Et de Thérèse, j'ai trouvé un livre qui s'appelle Histoire du mouvement noir au Brésil, où il avait les noms de plus de 3 femmes. Je suis allée vers ces 3 femmes qui m'a donné d'autres noms, et comme ça j'ai réussi à... Aujourd'hui j'ai 25 entretiens des femmes noires.
Et, ouais. Et pour toi, qu'est-ce que le féminisme?
Qu'est-ce que c'est le féminisme?
Pour toi, comment tu le définirais?
Bonne question. C'est beaucoup de choses, hein. Mais c'est surtout une lutte pour les droits des femmes et contre les systèmes patriarcal. Mais pour les droits, ce n'est pas uniquement les droits politiques, les droits de vote, ce n'est pas uniquement ça, mais c'est aussi une lutte de transformation de la société. Vous voyez, une lutte où... C'est pas uniquement, ça ne s'agit pas uniquement d'avoir des droits. Ça ne s'agit pas uniquement d'avoir les droits de vote. Ça, on a acquis aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ont acquis vraiment elles sont encore les plus précaires, elles sont encore celles qui souffrent les plus les violences sexistes, bien sûr, elles sont les femmes. Donc c'est encore beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc c'est vraiment transformer cette société capitaliste et patriarcale, qui tous les deux c'est vraiment le capitalisme, les patriarcales et les racismes, ils sont tous les trois inclus dans ce système. Et c'est vraiment les transformer d'une manière vraiment générale. C'est pas uniquement avoir droit de vote, ou droit de travailler le soir, ou d'ouvrir un compte à la banque, de voyager toute seule, ou de divorcer. C'est important, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Parce qu'on peut avoir tous ces droits et continuer quand même dans le système économique et politique et social qui va encore agir sous une forme d'oppression.
Un peu les luttes féministes au Brésil, comment tu pourrais définir? Parce que je pourrais pas parler juste de la lutte, parce que je pense qu'il y en a vraiment différentes.
Il y en a différentes. Les féminismes au Brésil, ils datent un peu comme partout dans le monde, qui on a vraiment structuré, c'est de la fin du 19e siècle, avec les suffragistes, les droits pour les votes. Et donc dans les années 20, déjà on a un mouvement féministe, déjà qui s'appelle la Fédération Brésilienne pour les Progrès Féminins, où c'était justement encore les droits de vote, les droits de divorce, ces droits encore sociaux et politiques qui n'existaient pas pour les femmes. Et là, on peut trouver des femmes noires à l'intérieur déjà, mais c'était des femmes très bourgeoises, des femmes diplômées, des femmes qui avaient plus ou moins une formation universitaire. Et là, actuellement, le mouvement féministe, il est très... c'est quelque chose qui existe au Brésil, il est fort. C'est pas... il faut pas croire que c'est quand même quelque chose d'anodin, pas du tout. Le mouvement féministe, il est très fort, il a une grande mobilisation des femmes noires, il a une grande mobilisation des femmes indiennes, il a une grande mobilisation des femmes des quartiers, il a une grande mobilisation des femmes pour les mouvements des terres, les femmes, les travailleurs des ruraux. Donc ces gens sont très très mobilisés pour ces femmes sont très très mobilisées pour accueillir encore des droits sociaux parce qu'elles n'ont pas toutes encore, mais aussi pour justement pour transformer ce système brésilien qui est très oppresseur envers ces femmes-là. Donc ce mouvement féministe, il existe, il est fort, mais le Brésil, c'est un pays très conservateur. On voit bien avec la présidente Dilma. Une des excuses, une des justificatives pour la faire sortir du pouvoir, c'était des justificatives extrêmement machistes, macho. C'était des justificatives du genre... on l'accuse des choses vraiment liées à son genre et on veut qu'elle sorte. Les mots d'ordre, par exemple, on la disait comme au revoir, chérie. On disait des mots vraiment très vulgaires, du genre Dilma, c'est. Excuse-moi pour le vocabulaire, mais Dilma est une pute, Dilma est une salope. Donc, c'est des choses vraiment liées à son genre. Elle est une femme et je pense que son plus grand crime, c'est de la première femme présidente. C'est ça, c'est déjà quelque chose de très problématique. Le pays, c'est un pays très conservateur. Dilma, elle a créé des politiques publiques pour l'insertion des Noirs, pour l'insertion des femmes, pour l'insertion des homosexuels, des transgenres, pour l'insertion aussi des femmes des quartiers, des femmes des classes les plus populaires. Il avait un programme social, par exemple, qui c'est pour l'accès à la maison privée, pour l'achat. Et on voyait que la majorité des gens qui étaient dans ces programmes, c'était des femmes seules avec leurs enfants. Vous voyez? Et ces politiques favorisaient beaucoup les femmes, surtout les femmes, et surtout les femmes racisées, et les femmes racisées précaires. Elle a beaucoup favorisé. C'est pas grand chose, on peut dire oui, mais pour un pays où il avait rien, c'est grand chose. Pour un pays où une personne gagne 100 euros par mois, c'est grand chose. Avoir droit à une petite maison, mais une maison qui a toit, qui a de l'eau, qui a tous les légumes, qui a toutes ces choses, c'est beaucoup, parce qu'avant, elle n'en avait rien. Donc, on peut dire, c'est pas. C'est des, on dit au Brésil que c'était des. C'était pas. Comment on dit ça? C'était pas vraiment. On n'aidait pas ces femmes à s'en sortir, on leur donnait des choses. Vous voyez, c'est d'assistentialisme. Mais il vaut bien que ces femmes aient quelque chose.
Il faut bien passer des fois par des pas.
Voilà. Donc ces femmes, Dilma fait une politique qui favorise beaucoup les femmes, beaucoup les transgenres, beaucoup les homosexuels, beaucoup les noirs. Et ça gêne les gens. Ça gêne cette bourgeoisie blanche, très tournée vers les États-Unis, très tournée vers les pays de l'Europe occidentale, qui ne veulent pas perdre leurs privilèges, qui veulent toujours avoir leur femme de ménage, qui veulent toujours pouvoir payer sa concierge, qui veulent toujours avoir cette distance entre eux et la femme noire, la femme indienne, la femme paysanne.
Mais Tawana, comment tu te sens par rapport à cette lutte féministe? Comment tu te situes en fait par rapport à cette situation, par rapport à ton statut de chercheuse?
Cette lutte féministe au Brésil?
Oui.
C'est difficile de parler parce que ça fait 10 ans que je ne vis plus au Brésil. Donc c'est très compliqué pour moi de
dire.
Je me sens toujours concernée, même parce que je suis toujours brésilienne. Donc ça me sent toujours concernée. Je sais que pour que je puisse rentrer un jour au pays, il faut que le pays soit bien. Il faut qu'il avance. Parce que s'il va régresser, je n'ai pas moyen de retourner pour avoir une vie correcte. Donc, je me sens toujours concernée. Et après, toute ma famille, toutes mes amis, tout mon monde, il est là. Donc, s'ils ont vu s'ils vont vivre cette souffrance, moi, je l'ai vu de manière indirecte, puisque je suis loin, mais je les sens quand même. Donc, pour moi, c'est très important que le Brésil avance. et que ce soit pour les miens qui sont encore sur place. Et pour moi aussi, que je puisse rentrer et être heureuse là-bas et avoir ma place.
Aujourd'hui, tu as accepté d'intervenir avec le Centre d'études postcoloniales en l'honneur de la commémoration des luttes des esclaves. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté cette invitation?
Parce que je trouve très importante en France qu'il y ait des études liées au postcolonialisme, des études liées à la race, des études liées au racisé, des études liées au colonisé. En France, je trouve que les études féministes en France, elles avancent, doucement, mais elles avancent. Alors que les études liées à la race, elles sont très précaires encore. Il y a une très forte résistance du côté de l'université, du côté des hommes des politiciens, que ce soit des hommes ou des femmes, d'ouvrir cet espace. Donc, je trouve que créer un centre d'études postcoloniales en France, c'est quelque chose quand même de très intéressant. Et surtout dans une ville comme Lyon, qui c'est une ville puissante, c'est la deuxième ou troisième ville la plus grande de France, c'est très considérable. Alors qu'on n'en trouve pas d'autres sur le territoire. En tout cas, pas ma connaissance. Je ne connais pas un autre. Et c'est important que les racisés, que les descendants des colonisés, que les descendants des gens qui ont vécu cette colonisation française, les racisés qui vivent en France, puissent se mobiliser, puissent prendre en charge leur propre lutte. Et ne pas attendre que ça vienne des Français d'une forme assistentialiste. On va vous aider toujours dans le paternalisme, dans le colonialisme. On va vous aider à s'en sortir. Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on commence déjà à mettre à jour nos mots d'ordre, à dire ce qu'on veut, ce qu'on comprend par là, et qu'on peut très bien s'en charger tout seul, qu'on n'a pas besoin des... Oui, il faut quand même qu'ils soient nos alliés pour réussir. Mais il faut qu'ils nous laissent prendre en charge. On voit encore quand on a des réunions non mixtes, féministes, uniquement avec des femmes, ça pose pas de problème. Mais va faire une réunion non mixte avec des racisés. C'est du communautarisme, c'est du racisme anti-blanc. Alors que quand on regarde, par exemple, dans une émission, par exemple, télé, où il n'y a que des blancs, personne ne dit que ça c'est du communautarisme. Alors s'il n'y a que des noirs, oui, c'est du communautarisme. Donc, toutes ces choses, c'est important.
Pour toi, qu'est-ce que c'est le postcolonialisme? Comment c'est important pour toi et comment ça te parle?
Bon, le postcolonialisme, encore je trouve que c'est voilà, une des études où les gens qui ont été colonisés parlent pour eux-mêmes, parlent à leur nom, prennent charge de leur lutte, mais c'est aussi décoloniser non seulement l'économie, la politique, mais décoloniser surtout les esprits, surtout la mentalité des gens, parce que les gens ont encore cette idée... où l'Europe c'est la référence, l'Europe c'est l'universel, où l'Europe c'est les gens qu'il faut écouter, l'Europe donne l'exemple, l'Europe décide pour toute la planète, pour tous les peuples. Et il faut arrêter un moment avec ça et voir que les expériences ne sont pas pareilles partout, que les gens peuvent quand même prendre en charge leur lutte, leur mouvement, leur histoire, surtout leur histoire, leur discours, et faire quand même de sorte que les choses avancent dans les contextes qui sont importants pour eux. Et pas attendre que ça vienne de l'Europe. Je vois beaucoup encore au Brésil comment les gens parlent de l'Europe, surtout de la France, comme si c'était un paradis, comme si c'était un monde... l'odorat, c'est l'odorat français, comme a dit une auteure française. C'est l'odorat français. C'est... Tout ici, c'est bien. On a l'impression que... Quand je suis partie du Brésil pour arriver ici, j'avais l'impression que... On a un discours où en Europe, il n'y a que des blancs. La population est très blanche. Où tout le monde est riche. Où tout le monde a beaucoup de biens. Où... On ne fait pas la queue pour rien, tu vois, si on arrive à la banque, à la poste, tout est comme ça, pratique. On dit deux mots, c'est réglé les problèmes. C'est vraiment l'esprit, vraiment, de cette Europe parfaite, de cette Europe où rien, où tout se passe bien. Alors que, une fois que je suis arrivée ici, j'ai vu que c'était pas très bien comme ça. En tant qu'étrangère, tout de suite, je suis tombée dans des situations très... très gênante, je voyais bien que c'était lié à ma condition d'émigrer. Si j'avais été une femme blanche ou un homme blanc français, ça ne serait pas arrivé. Une histoire bête, je peux me permettre très vite de raconter. Je suis allée à la préfecture, mon mari avait vendu une moto et il voulait que j'enregistre la vente au cas où l'acheteur avait eu une amende ou quelque chose comme ça. Et la dame a dit non, tu ne peux pas faire ça tout de suite, la moto était matriculée en 56. Et on vit au 22. Il faut aller au 56 pour enregistrer la vente. J'ai dit n'importe quoi, on réside au 22, donc c'est au 22 des fers. Elle a dit non, on ne peut pas. Je retourne à la maison, j'ai dit à mon mari, il a dit c'est qui? J'ai dit c'est telle personne, elle est habillée comme ça. Il retourne à la mairie, à la préfecture. C'était une toute petite préfecture, il avait trois personnes. J'ai dit c'est une femme habillée comme ça. Il arrive, il donne les mêmes papiers, la femme fait. Elle fait tout ce qu'il fallait faire. Et du coup, j'arrive pas derrière, il m'envoie un message, il a dit c'est réglé, j'arrive pas derrière. Je lui dis à la dame, mais pourquoi pour lui c'est bon et pour moi il fallait que j'aille au 56, il fallait que j'aille, que je fasse pas combien de kilomètres pour enregistrer la vente de la moto. Elle a dit, je suis désolée, j'avais pas compris ce que tu voulais dire. C'est l'excuse qu'elle m'a donnée.
Est-ce que tu peux faire une brève comparaison entre les racismes au Brésil et en France? Est-ce que tu connais ce proverbe brésilien qui dit, il n'y a pas de racisme au Brésil, mais tous les pauvres sont noirs?
Ouais, je connais. C'est le mythe du paradis racial, c'est le mythe de la démocratie raciale, c'est le mythe où tout le monde est égaux, où il n'y a pas de conflit racial entre les noirs, les blancs, les indiens, alors que quand on va regarder bien qui sont dans les favelas, quand on va regarder bien qui ont les travaux, qui font les personnes qui font les travaux plus précaires, quand on va regarder qui sont les médecins, qui sont les juges, qui vit dans les quartiers les plus aisés, ça, on voit très clairement où est la place des Noirs, des Indiens et des racisés précaires, où est la place des Blancs. On voit très bien. Il a actuellement, par exemple, actuellement, il y a un souci où on a bloqué les bus qui venaient de la favela en direction des plages UP. On ne voulait pas que les gens de la favela aillent dans les plages comme Copacabana, qui c'est le plus connu en France, Ipanema, cette plage très... où il y a la population plus aisée de Rio, par exemple. Donc les bus qui descendaient des favelas en direction de ces plages, la police arrêtait, faisait tous les noirs descendre et retournait à la favela. Donc la plage, elle est démocratique? Non. Il y a la plage pour les blancs, il y a la plage pour les noirs. Les espaces ne sont pas forcément démocratiques. On sait très bien où les noirs peuvent entrer, où ils ne peuvent pas. Un noir qui marche dans un quartier très riche, il va tout de suite se faire contrôler par la police. Et qu'est-ce que tu fais là? Si la personne habite là-bas, il est censé de donner presque les certificats de résidence pour pouvoir rentrer chez lui, parce que c'est pas forcément ouvert à toutes les populations, les espaces publics, moins encore les espaces privés.
Juste une dernière question. François Hollande, le président français, a participé à la commémoration officielle des mémoires de la traite, de l'esclavage et de l'abolition. Et certaines associations noires ont été écartées par la police. Qu'en penses-tu et comment se passent les commémorations au Brésil? Est-ce que la population noire est également intégrée à ces festivités?
La population noire, comme les féministes, les femmes noires surtout, elles sont très mobilisées au Brésil. Elles sont très mobilisées et c'est... Les gens diront qu'ils vont dire encore, pour décoloniser les esprits, je trouve qu'elles sont même beaucoup plus mobilisées qu'en France. les gens vont dire, ouais, mais comment ça se fait? On ne peut pas être mieux que l'Europe. On ne peut pas faire plus que l'Europe. Ça, c'est impossible. Mais oui, elles sont beaucoup plus mobilisées. On va les marches des femmes noires. On va les marches pour les chevaux crépus, pour la valorisation des chevaux crépus. On va les marches contre les violences policières. Bien sûr que les marches contre les violences policières, la police, elle est en train de pratiquer la violence. Bien sûr. On n'arrive pas encore à finir avec ça. Mais les gens sont très mobilisés. Ils font vraiment... Elles prennent vraiment en charge les questions. Ils font vraiment des actes politiques, culturels, qui mettent en avant la culture noire, la femme noire, la valorisation de tout ce qui est lié à ces populations. Et c'est pareil pour les Indiens. On parle un peu moins, mais ils sont beaucoup nombreux, ils se mobilisent beaucoup. Ils marchent jusqu'à Brasilia, la capitale, ils interviennent. Parce que les Indiens parlent un peu moins que les Noirs, puisque les Noirs sont très urbains. Donc bien sûr, ils ont une visibilité plus forte. Mais les Indiens aussi, ils sont très mobilisés. Ils ne laissent pas vraiment se faire manipuler dans tous les contextes. Donc je trouve que c'est largement plus mobilisé en France, mais je trouve qu'en France, c'est bien. Après, il faut voir que
les associations noires sont écartées.
Non, pas qu'elles soient écartées, mais ça, on peut pas attendre que François Hollande accueille. Dans un pays où on croit que ça existe, le racisme anti-blanc, on peut pas croire quand même que on va accueillir la population noire avec des bras ouverts comme ça, venez, c'est votre lutte, c'est à vous de nous dire, c'est à vous de prendre en charge, c'est à vous d'être en avant. Non, ils vont pas nous céder ça, rien n'est donné. Hier, on a fêté les 13 mai au Brésil, c'est la fin, on commémore la fin de l'esclavage. Et encore au Brésil, on a cette pression que c'est la princesse qui nous a donné. Elle s'était attribuée. Elle a signé parce qu'elle était une personne très gentille. Elle est là-bas, elle a signé. Alors que non, rien n'était donné. C'était les Noirs qui se sont mobilisés, qui ont lutté, qui ont vraiment fait pression, qui ont résisté, qui ont fait tous les sorts d'actes politiques pour attendre, pour en arriver là. Et c'est pareil en France. Ça ne nous sert à pas de donner des « tiens, c'est à toi, c'est ton espace, viens ». Il faut vraiment avoir... Il faut ce conflit. Et je pense que c'est très important qu'il ait lieu. Et c'est comme ça, vraiment, qu'on va voir que... Voilà, si on ne se mobilise pas, si on attend que ça tombe du ciel, que ça vient des politiciens, c'est... On n'est pas gagné, hein.
Oui. La fin de l'esclavage est le fruit de la résistance du peuple noir.
Bien sûr, c'est tout à fait ça. Rien n'était donné. Et pareil pour les femmes, pareil pour tous les gens, pour les racisés, pour les précaires, pour ceux qui sont opprimés.
Merci beaucoup.
De rien.
Merci.
Toujours sur Radio Canu 102.2 FM, la plus féministe des radios. Et oui, des radios. Et c'est Lilith Martin et les autres, une émission féministe tous les vendredis, tous les 15 jours de 17h à 18h. On remercie le Centre d'études postcoloniales pour cette interview, de nous avoir filé le son et tout ça. C'était super chouette avec Tawana, une doctorante en histoire, et c'est elle qui a choisi la musique. Et malheureusement, on a oublié de demander c'était quoi comme le titre du morceau. On continue au cœur de l'actualité. Chouchou, la lutte, elle s'arrête pas, ça continue depuis 2 mois, 3 mois.
Alors, on va vous faire écouter une interview qui a été réalisée hier. Donc, c'était lors d'une manif qui a eu lieu à Lyon, qui a rassemblé environ 1400 personnes. Cette manif, elle a été appelée en premier lieu par des syndicats et des associations de retraités, mais a été quand même relayée et suivie par l'ensemble des syndicats mobilisés en ce moment. Et la CGT cheminots, notamment, y était fortement mobilisée. Alors, pourquoi les cheminots se mobilisent au-delà de, des mobilisations actuelles contre la loi travail? En fait, ils sont aussi en lutte parce qu'ils sont actuellement sous le coup de négociations d'accords et d'une nouvelle convention collective. Donc, pour rappel, en fait, on l'a dit souvent quand on explique la loi travail, notamment, mais c'est la même chose pour eux. Une convention collective, c'est ce qui régit l'ensemble de la branche du ferroviaire, donc pour eux. Et les accords d'entreprise, c'est vraiment ce qui va régir les conditions de travail des salariés de la SNCF. Là, en ce moment, les accords, ils sont en négociation et ils ont déjà été acceptés par la CFDT, mais notamment Sud, Rail, CGT et FO ici opposent. Donc, qu'est-ce que ça change, ces accords? Alors, c'est assez compliqué, donc on ne va pas expliquer tout maintenant. Mais il y a des choses très concrètes qui changent dans les conditions de travail des salariés, notamment sur la question du repos. Puisque les cheminots, en fait, ils peuvent bénéficier de repos qui ne sont pas décomptés comme des jours de congé, normalement, quand ils terminent après à 19h. Et là, c'est des horaires, ça, ils vont changer les horaires. Ça, c'est des exemples très concrets de conditions de travail qui changent. Mais aussi, c'est en fait la nouvelle convention collective, elle instaure vraiment une ouverture à la concurrence du marché ferroviaire. Donc ça, c'est des grands mots, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que quand même le service qui est rendu aux usagers, ce qui est quand même le but normalement de la SNCF, c'est permettre aux personnes de se déplacer facilement, il risque d'être restreint parce qu'ouverture à la concurrence, ça veut dire plus de... On veut plus de rentabilité, donc on mise tout sur les trains qui coûtent cher et qui sont rentables, comme les TGV. Et on mise moins sur les trains qui ne rapportent pas d'argent parce qu'ils sont peut-être moins utilisés, encore que, mais et qui sont moins chers, comme les TER. Donc c'est un exemple très concret de choses qui pourraient changer pour les usagers. Et donc une autre chose qui dénonce les syndicats mobilisés en ce moment, les personnes mobilisées en ce moment à la SNCF, c'est qu'en fait les accords qui sont en train d'être négociés, ils instaureraient aussi une inversion de la hiérarchie des normes. Alors ça, on en a parlé lors d'une émission où on expliquait justement la loi travail. C'est la même chose qui est reprochée à la loi travail, et c'est l'article 2 de la loi travail qui permet cette inversion des normes, c'est-à-dire qu'en fait, les accords d'entreprise, ils pourraient primer sur les conventions collectives. Donc c'est toujours donner une autonomie à l'entreprise par rapport à l'accord de branche, et donc c'est permettre qu'il y ait plein de dérogations en fait à l'accord de branche. Donc c'est ce qu'ils dénoncent aussi. Donc actuellement, la SNCF, ils sont en grève reconductible. Et donc c'est le 9e jour de grève aujourd'hui, le 9e jour de grève consécutive aujourd'hui. Sur la région de Lyon, il y a 15 sites. Sur 15 sites, il y a 14 sites qui ont reconduit la grève hier. Et puis à titre d'exemple de chiffres, il y a 118 personnes en grève à Perrache, une soixantaine à la Part-Dieu. Voilà. Je crois que j'ai fait une présentation complète.
Vous avez des questions? Très intéressante. S'il y a des questions dans le studio.
Tut. Donc, hier, on a rencontré une copine de la CGT Cheminot, super chouette, qui a accepté de répondre à nos questions. Et on va l'écouter maintenant.
Tu peux nous dire où tu travailles?
Oui, je travaille à Perrache, à la SNCF.
Tu fais quel poste?
Je suis gestionnaire RH.
Et ça fait combien de temps que tu es en grève?
Ça fait 9 jours là, depuis la reconductible, sinon ça fait 15 jours de grève là.
Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à faire la grève?
Qui m'a motivé, c'est que là, ils revoient à la baisse toutes nos conditions de vie, toutes nos conditions de travail, par la force, avec le 49-3, avec ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est que voilà, on n'en veut pas et on tiendra le temps qu'il faudra.
La grève, elle est bien suivie dans votre secteur?
Elle est pas trop mal suivie, ouais. Pour le moment, on est à 80% chez nous. Après, il y en a qui ne se sentent pas peut-être concernés ou qui ne se rendent pas compte de ce qui tombe. Après, il n'y a pas que nous. Enfin, on est les cheminots, on a aussi. On arrive à faire grève plus facilement que d'autres personnes qui sont dans d'autres milieux où c'est plus difficile, où ils sont dans des situations encore plus précaires que les nôtres. Voilà, on se bat pour nous, on se bat pour tout le monde parce qu'on peut encore le faire. Et je pense que celle-là, il faut qu'on la gagne complètement parce que de partout, on le voit, tout le monde est dans la rue depuis le début de l'année et que bah, ça bouge pas ailleurs, quoi.
Dans ton boulot, toi, en tant que gestionnaire RH, est-ce que ça te pose des problèmes avec ta direction? Parce que t'es dans une place un peu particulière, peut-être, quand même.
Ça me pose des problèmes, oui. Bah, forcément, j'ai pas beaucoup d'amis chez moi, mais voilà, on se bat pour eux aussi. Ça me pose des problèmes parce que... Parce qu'ils sont au travail et qu'ils acceptent leurs conditions de travail. Après, j'espère vraiment qu'on va les gagner. Il n'y aura pas de rancune, mais...
Et la grève, elle s'organise comment à PRH?
Comment elle s'organise? En fait, on a des assemblées générales tous les jours. Donc, on voit en fonction de ce qui se passe un peu de partout, chez nous, dans d'autres entreprises. Voilà, on propose de reconduire, de ne pas reconduire... On voit les actions qui sont proposées, on y va, on participe, on participe pas.
Et est-ce que ça fait une autre ambiance de travail de faire la grève aussi
Bah, pas de travail là, parce qu'on bah, on travaille peut-être même plus que quand on est au travail, tu me diras. Mais,
Je veux dire, est-ce que non, c'est...
Ça fait chaud au cœur parce qu'on voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde. À des moments, on sent un petit peu, on se dit, est-ce que c'est nous qui réfléchissons mal ou est-ce que c'est les autres? Et quand on voit quand même le monde qu'il y a, on a quand même beaucoup de monde qui viennent le matin, qui sont forcément pas contents parce qu'ils n'ont pas de train ou qui... voilà, parce que bon, la SNCF, on a un peu le dernier bastion, mais qui arrivent, qui nous comprennent, qui nous, voilà, qui nous soutiennent, ça fait chaud au cœur.
Et du coup, par les manifestations, il y a des actions, vous avez participé à des actions récemment ou impulsé des actions?
Ouais, bah alors on a eu des actions, on est, bah, y a, avant-hier on est parti à la préfecture, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Hier on était au conseil régional, on a été reçu, mais c'était plus une boîte aux lettres. On essaye de se faire voir, de se faire entendre comme on peut.
Dans les rapports avec les autres syndicats, parce que du coup la CFDT, ils ont signé l'accord de la SNCF et je sais pas comment vous en discutez entre vous. Est-ce qu'il y a eu des engueulades? Est-ce que vous en parlez? Comment ça se passe?
Les autres syndicats, pour le moment on est CGT, FO et Sudrail. CFDT on les a pas vus depuis le début, donc on n'a pas pu en parler entre nous. Mais non, oui, on n'est pas tout à fait d'accord avec leur stratégie et non, pour nous c'était un petit peu les alliés du gouvernement en fait. Ils vont signer ce qu'ils leur demandent de signer, ils sont contents et c'est pas un syndicat pour moi.
Et moi j'ai une autre question aussi, c'est sur le service. Comment ça se passe maintenant la grève à la SNCF? Parce qu'il y a quand même toujours des trains et que par exemple on voit aussi qu'ils rajoutent des cars. Et qu'est-ce que ça veut dire, la SNCF, ils embauchent d'autres personnels ou comment c'est géré?
Alors là, les cars, c'est donc la troisième classe, effectivement, c'est des filiales de la SNCF, donc c'est pas des, des cheminots. Et bah, là, les trains, ils roulent, c'est bah, les cadres qui font tourner, et puis les CDD, en fait, tout le personnel précaire en fait qui a peur de se faire entendre parce que la situation en ce moment est assez compliquée et nous encore on est dans une grosse boîte, mais là voilà, ils vont leur dire ben, ils ont un peu la pression de voilà, ils ont l'impression de ne pas pouvoir faire grève et je peux comprendre parce qu'ils peuvent perdre leur boulot du jour au lendemain et ben, voilà.
Donc toujours sur Lilith Martin et les autres, on vient d'écouter ce témoignage donc, qui a été réalisé lors d'une manifestation hier le 9 juin. Et c'était aux abords, en fin de manif, aux abords de la préfecture qu'on a pu interviewer cette personne. Donc merci à elle, si jamais elle nous entend, on lui fait un grand bonjour. Et juste quelques précisions, parce qu'après on a continué à discuter et évidemment il y a plein de choses qui sortent une fois qu'on a coupé le micro. Et du coup, bah, c'était pour préciser, donc, le boulot de la personne qu'on entend, gestionnaire RH, ça veut dire qu'elle fait les payes, en fait. Voilà, donc c'est un boulot qui est administratif. Elle nous a évoqué plein de choses autour de pourquoi elle est en lutte suite aussi à l'interview. Notamment, elle a abordé la question de la gratuité des transports, que elle croyait à son boulot parce que c'était un boulot de service public et qu'elle trouvait que dans la grève, c'était super important d'expliquer aux usagers le rôle de la grève et que c'était aussi pour les usagers que les personnes étaient en grève, puisque c'était pour maintenir justement un vrai bon service rendu au public. Elle a évoqué aussi l'importance de maintenir les petites lignes qui sont de plus en plus menacées, j'en parlais un petit peu tout à l'heure en introduction, et de ne pas développer, bon, je cite un peu ces mots, hein, de ne pas développer simplement des TGV pour des hommes d'affaires. Et aussi elle a évoqué, alors, parce que souvent des attaques que les agents SNCF y prennent dans la gueule dans les médias mainstream, on va dire, c'est que c'est déjà des privilégiés, puis pourquoi ils font la grève ceux-là, mais pour qu'ils se prennent de faire la grève alors que déjà ils ont de la chance par rapport à plein de salariés précaires. Et elle avait un discours assez intéressant là-dessus par la suite, parce qu'elle disait, bah, en fait, si même nous, on arrête de faire la grève alors qu'on peut se le permettre, justement, comment les personnes les plus précarisées, elles vont pouvoir faire la grève. Du coup, c'est aussi intéressant de rappeler ça que, en fait, là, c'était vraiment son discours qu'elle se battait pour tout le monde. Surtout qu'il y a des statuts qui sont en train de changer à la SNCF. Il y a de plus en plus de boulot précaire. Elle en parle un peu dans l'interview. Du coup, de pourquoi systématiquement, même quand on a des conditions un peu plus avantageuses que d'autres salariés, bah, justement, c'est ce qui nous permet d'être peut-être plus facilement en lutte. Et justement, bah, on a intérêt à prendre cette possibilité-là parce que ça peut servir à tout le monde et pas seulement aux personnes qui se mobilisent. Donc voilà, un grand merci à elle. Et on continue l'émission. Let me tell you how I feel now. I feel down, I mean deep down. Bottom of the sea drown. Like there's a leak that I forgot to seek out. So a lot of shit leaps down till this ship's deep down. Deceased and bound, and it seems the only piece of release now sweeps round when weed reaches my mouth. I breathe in, stop, then breathe out. That 1 second release takes me to heaven in peace. I beckon to weed as a means of forgetting my stress and defeat. And it's taking the lead, I need to forget it and leave. It's pathetic but it's easier said than achieved. I'm stretched up my seams nevertheless. On my head I can see success and relevant dreams that are repping my beats. And it seems that I'm heading for a scene that's better. Cause life can be hard at times and we all know that. But don't lose sight, I'm full of trap. Stand upright and find that mic and attack till your life is intact. Cause life can be hard at times and we all know that. But don't lose sight or fall off track. Stand upright and find that mic and attack till your life is intact. I have times of enormity, so if I sit in dormancy, it's normally cause I'm more important taunting me. So I normally sort of weed as a means of sorting peace. But normally get bored, snore and fall asleep. Wake up and I'm more raw, sore and beat. Cause in my sleep I saw some scenes that I forced thoughts deep to the core in me. Fought and tortured me into a corner. So in the morning I'm reborn to disorder. But I need to ignore that. Like a seesaw I'll be down, but I'm brought back up to a higher place. Cause I'm a fighter, my mind's in a decisive state. Despite the trials everything's brighter. My eyes dilate, I caught sight of a time in my life where everything's fine and great. Cause life can be hard at times and we all know that. But don't lose sight, I'm full of trap. Stand upright and find that mic and attack till your life is intact. Cause life can be hard at times and we all know that. But don't lose sight, I'm full of trap. Stand upright and find that mic and attack till your life is intact. In life I gotta try and be positive, but I forgot what it is. The topic that I lost ever since I stopped being a kid. Now I'm locked, sealed, me in the skin. Seeing what's for real and it's dim. It's hard to smile when all I'm seeing is sin. And all the while receiving some shit instead of the love I'm reaching to get. I'm just reaching to an invisible air that blows by when I'm feeling despair and injured. So you know why at times I don't care and I'm inward. Cause I'm hindered by the adverse affairs that linger. But I converse and filter through the filth and scares it brings us. And see a glimmer of hope in the distance. So I show a bigger resistance on my quest on my road to success. Show sprinting like Limford. Show the talents that I own and possess and I bring them. Cause life can be hard at times and we all know that. But don't lose sight, I'm full of trap. Stand upright and find that mic and attack till your life is intact. Cause life can be hard at times and we all know that. But don't lose sight, I'm full of trap. Stand upright.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, dans L'Élite Martine et les autres. On vient d'écouter Tenacity de Oracy, une rappeuse londonienne. Et la première musique qu'on a écoutée dans l'émission s'appelle 40 mesures de rappel de Riam, une rappeuse
de banlieue parisienne.
Voilà. Et on va finir
l'émission. Nous, on fait les capitales.
Voilà, on fait dans les capitales. Et on finit l'émission avec l'agenda Lilith. Et d'abord, un petit point cinéma. Évidemment, c'était le Festival de Cannes il y a 2 semaines. Et il y a un film qui a gagné un prix dont je voulais parler. Il s'appelle Divine. C'est le film de la réalisatrice Ouda Benyamina qui a remporté la Caméra d'Or. Et voilà. Et donc, la réalisatrice a fait un petit discours très marrant quand elle a reçu le prix. Elle était très contente de recevoir ce prix d'une main d'une femme, voilà. Et son film, dans son film, il y a 2 héroïnes assez cool et qui changent un peu des rôles habituels. C'est l'histoire de Dounia, une jeune qui veut réussir et qui veut pas se laisser marcher sur les pieds. Et pour ça, elle va suivre les traces de la boss de la cité, la dealeuse en chef, qui gère son beau monde avec des claques sur les fesses. Voilà, pour comprendre, il faut aller voir l'extrait sur internet. Et donc, en parlant de rôles de meufs qui sortent de l'ordinaire et du cliché au cinéma, on a une deuxième petite info croustillante. Juliette Binoche et d'autres comédiennes ont lancé une société de production féministe qui s'appelle We Do It Together pour financer et promouvoir des films qui changent l'image des femmes sur grand écran. Donc c'est évidemment une réponse au rôle cliché et sexiste d'Hollywood. Sur leur site, qui est assez bien fait, mais en anglais. Je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait une traduction en français d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est international puisqu'elle a monté ça avec des comédiennes du monde. Et donc sur leur site, c'est assez intéressant parce qu'elle donne des exemples chiffrés de la disparité homme-femme dans le monde du cinéma. Donc j'aurais juste noté un exemple. Donc selon l'étude Celluloid Selling, alors que 50% des diplômés d'écoles de cinéma aux États-Unis sont des femmes, seulement 7% de réalisatrices sur 250 films d'Hollywood sortis ces dernières années. Voilà. Encore un exemple frappant.
Et dans cette actualité du cinéma, il y avait le festival du film palestinien qui mettait à l'honneur les réalisatrices. Et après, le film que je suis allée voir, c'était la réalisatrice qui était invitée, qui pouvait parler. Et là, elle dit, en fait, en Palestine, 40% des réalisateurs sont des femmes. Et elle dit, mais pourquoi vous, en France, c'est le nombre, c'est quoi? C'est 10%, un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était bien dans les inversions aussi des clichés sexistes qu'on peut porter sur le Moyen-Orient en disant, les femmes, elles sont plus opprimées qu'en Europe. Et elle était trop drôle, ce qu'elle a vraiment dit avec un petit ton un peu sarcastique. Et vous, qu'est-ce qui se passe en France? C'est quoi votre problème?
Eh oui. Parfois, c'est pas là où on s'attend le plus qu'il y a des inégalités, quoi.
Agenda ?
Suite de l'agenda ?
Alors, on poursuit avec juste une petite annonce pour ce week-end. Donc demain, le 11 juin, il y a une journée d'information et de solidarité avec les migrants et les migrantes et les luttes qui sont en cours à Vintimille. Vintimille, c'est à la frontière avec l'Italie. Donc cette journée, elle a lieu de 11h à 16h30, place Colbert, dans le premier, donc sur les pentes de la Croix-Rousse. Et elle est organisée par le Front antiraciste de la CGA Lyon et le collectif Tiens bon la pente. Donc il y a plein d'événements, plein d'infos, formation juridique, musique, repas de quartier, collecte de dons, zone de gratuité. Donc voilà, vous pouvez vous y rendre demain. Sinon, toujours demain soir, il y a une soirée de soutien à la Caisse de solidarité. Donc pour savoir le lieu, il faut leur envoyer un mail. Vous pouvez aller voir sur Rébellion, en fait, l'annonce, c'est plus simple que je vous dicte le mail à l'antenne. Donc ça sera à partir de 19h. On rappelle que la Caisse de solidarité, c'est un groupe qui récolte des fonds et qui aide en fait les inculpés. Et donc c'est toujours important, mais c'est notamment super important en ce moment, en période de mouvement, où il y a beaucoup de personnes qui sont inculpées. Voilà. Et sinon, on rappelle, toujours en parlant du mouvement contre la loi travail, qu'il y aura une grosse manif le 14 juin. Donc, allez pas tous à Paris, parce qu'il y a un appel pour aller à Paris, mais il y aura aussi une manif à Lyon. Et elle sera à 11h au Brotto, mardi 14 juin.
Et on termine avec une invitation à une réunion débat non mixte entre personnes racisées, sans mexis, ça veut dire sans personne ou le corps de la naissance et le corps dans lequel tu vis. Et c'est ce soir à 19h au local féministe 8 rue de la Victoire dans le 3e arrondissement. Et c'est comment se créer des espaces militants et de réflexion et quels en sont les enjeux pour les femmes racisées. En gros, le petit texte d'invitation, c'est aujourd'hui, en tant que femme racisée, il est parfois difficile de se sentir à l'aise dans le milieu militant. Nous subissons déjà des oppressions au quotidien, qu'elles soient directes ou indirectes. Les lieux et moments supposés être propices à l'échange ne nous offrent souvent que la reproduction des structures hiérarchiques et des schémas d'une société de pouvoir et de domination. Nous sommes bien trop souvent témoins d'une appropriation de nos luttes. En effet, la parole est rarement donnée aux personnes concernées et c'est pour cela qu'il faut la reprendre et ne pas attendre qu'elle nous soit donnée. Nous partons du constat qu'il existe actuellement très peu de lieux et d'espaces où nous puissions nous rencontrer, échanger sur nos expériences, nos ressentis, créer des solidarités concrètes afin d'agir sur des luttes qui nous concernent. Et elle termine par « Ne me libère pas, je m'en charge. Ce qui est fait sans nous et pour nous et contre nous. » Voilà, c'est un espace, comment se créer des espaces militants de réflexion et quels en sont les enjeux pour les femmes racisées au local féministe à la Guillotière, 8 rue de la Victoire. À partir de 19h, on vous laisse.
À bientôt.
À plus.
Ciao. Et aussi.